L'EM, l'émission. L'émission. Sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond. Plonger.
Bonjour et bienvenue dans l'EM, l'émission quotidienne de Transistor, ex Radio Évasion. C'est en direct à midi, c'est rediffusé à 18h. Et aujourd'hui, nous retrouvons notre bonne table, l'association 4 quarts, avec qui nous réalisons chaque trimestre une émission autour des questions liées à l'alimentation, au bien manger, au bien boire. Et justement, ce sera le bien boire, puisque c'est le mois de janvier, puisque s'est installée depuis quelques années cette idée de Dry January. Un mois sans boire d'alcool après les excès des fêtes de fin d'année. Un mois pour commencer la nouvelle année tout en sobriété. Le Dry January, le janvier sec, comme son nom l'indique, il nous vient des pays anglo-saxons. Est-ce pour cette raison que le ministère de la Santé français ne soutient pas ce Dry January ? Pourtant, en matière de santé, les effets négatifs de l'alcool sont bien démontrés. On n'est plus dans la fake news. Mais il y a peut-être ce lobby viticole. Le vin est si traditionnel chez nous, presque un élément de notre identité. À moins que ce soit le lobby de la bière, tant le nombre de brasseries a explosé en France ces dernières années. Pourtant, il paraît que refuser de boire de l'alcool est aussi une tendance de fond. Alors, avec nous pour en discuter, trois éminentes adhérentes de l'association 4 quarts. Il y a Françoise Doucet, Pascal Ossier et Sophie Kouka. Bonjour mesdames.
Bonjour. Bonjour.
Pourquoi donc un mois sans alcool, à votre avis, Sophie ?
Vous l'avez dit, c'est théoriquement parce qu'on a beaucoup abusé pendant les fêtes, mais ceci dit, c'est pas évident que tout le monde abuse pendant les fêtes. Disons que si on veut expérimenter le fait de ne pas boire d'alcool, parce que l'alcool a un côté rituel. Ça crée des habitudes et on sait que ça c'est... Et pour casser une habitude, il faut au moins 3 semaines. Donc l'idée de s'arrêter pendant un mois, ça peut effectivement permettre à certaines personnes de se dégager de certaines habitudes et peut-être de prendre conscience que finalement, elles consommaient de l'alcool sans forcément y puiser encore beaucoup de plaisir ou par habitude. Voilà. Donc je vois plus cet intérêt sur un mois... que le fait qu'il faille un mois pour récupérer des fêtes. Enfin, je pense quand même qu'aujourd'hui, les gens qui font n'importe quoi entre Noël et jour de l'an, ça devient rare.
Je sais pas. Et ça fait longtemps que ça existe dans les pays anglo-saxons, ce Dry January. Quelqu'un sait ? Non ?
Non.
Personne ne sait ? Bon. Non. Enfin, en tout cas, chez nous, on dirait que c'est arrivé depuis quoi ? 5-6 ans ou 10 ans, peut-être ?
Alors, après, c'est vrai que les anglo-saxons, enfin, on se souvient quand même qu'il y a eu la prohibition aux États-Unis. Ils ont, enfin, les protestants, en général, ont une relation à l'alcool qui est différente de celle qu'on a dans le bassin méditerranéen. La France, dans ce cadre-là, étant assimilée au bassin méditerranéen. Et... Donc, il y a une vraie différence culturelle.
Est-ce que c'est toujours vrai, ça, d'ailleurs ? Est-ce que le rapport à l'alcool est si différent entre les pays anglo-saxons et les pays latins ? Parce que, en fait, c'est vrai que ces mots, par exemple, ce qu'on appelle le binge drinking, le fait de boire massivement, notamment le week-end, enfin, vendredi, samedi, finalement, c'est un peu, ça fait un moment que c'est arrivé aussi en France. Le terme est certes anglais, mais j'ai l'impression que plus ça va, plus on boit comme des anglo-saxons.
C'est le problème d'ailleurs de l'alcool, c'est que c'est une question d'éducation. Enfin, la consommation d'alcool, ça devrait passer par l'éducation. L'alcool, c'est certainement un des produits les plus accessibles à l'humain parce que c'est très facile de faire fermenter quelque chose où il y a des glucides à transformer. Donc, les hommes, enfin, on sait qu'au néolithique, il y avait déjà des boissons fermentées et alcoolisées. Enfin, donc alcoolisées.
On avait remarqué aussi que c'était peut-être moins dangereux que l'eau contaminée. Enfin, c'est ça, en fait.
Exactement. C'est-à-dire qu'il faut. C'est un désinfectant,
voilà,
l'alcool.
Tout simplement.
Et pendant longtemps, on a fait fermenter, effectivement, on avait des boissons fermentées, des genres de bières. Enfin, c'était souvent des fabrications maison ou même comment ils appelaient ça, la boisson. Enfin, moi, je me suis appelé ça la boisson. On faisait fermenter un peu tout et n'importe quoi dans
l'eau. Des végétaux, quoi. On les met dans l'eau, puis on attend.
Voilà, des végétaux. Et parce que ça, c'était une forme de désinfection.
Mm-hmm. Françoise, un mot sur ce mois sans alcool ? du point de vue justement de la spécialiste de l'hygiène.
Voilà. c'est un sanitaire. Super désinfectant, c'est vrai. Alors, je me suis posé des questions un petit peu plus anthropologiques, même si ce n'est pas ma spécialité. Alors déjà, pourquoi faire le mois de janvier sans alcool? Ce n'est pas une question forcément d'arrêter l'alcool après. Ça ne veut pas dire ça. Je pense que c'est juste une mise en distance, une mise en conscience. C'est pas le fait d'arrêter pendant un mois. Moi, je pense que ce qui pose souci par rapport aux problématiques de binge drinking, c'est plutôt la perte de contrôle que ça occasionne à ces moments précis. Il y a des... Alors, il faut dissocier, en fait, effectivement, les personnes qui boivent de l'alcool de façon festive. Et puis, les personnes pour qui c'est une véritable maladie, hein, déjà. La consommation d'alcool a baissé depuis le début du XXe siècle.
En France,
ça fait que baisser.
Oui,
en tout cas pour
on est passé à combien, par exemple, drastiquement.
Je crois qu'entre les années 60...
C'était divisé par deux.
Voilà. Mm-hmm. Entre les années
depuis
60,
les années 60.
Voilà.
D'accord. Très bien. Bah oui.
C'est la manière de consommer en fait qui a évolué. Aujourd'hui, j'entendais un spécialiste qui disait qu'il y avait 15% d'adultes qui ne buvaient pas d'alcool. Il y avait 10% d'alcoolodépendants.
Donc malades alcooliques en fait.
Donc
voilà.
Qui sont vraiment malades.
Identifiés.
Et puis il y a 22% des personnes qui dépassent en fait les repères de consommation normale. Fléchés par les autorités sanitaires, qui sont de 2 verres par jour, ou en tout cas moins de 10 verres par semaine. Mmh. Voilà, donc c'est une évolution en fait des façons de boire. Enfin, moi, je me pose vraiment des questions par rapport à ça.
Et, mais est-ce que ce qui définit la maladie alcoolique, c'est une quantité, mais en fait, est-ce que c'est pas plutôt un rapport à l'alcool, c'est-à-dire
c'est
le fait de ne pas
de
pouvoir
contrôle,
s'en passer.
C'est la perte de contrôle.
Ouais, c'est ça.
Ouais,
c'est parce que finalement, c'est on peut devenir alcoolique avec très peu d'alcool, peut-être.
C'est la perte de contrôle. Mais on peut très bien avoir des personnes alcooliques qui disent bah oui mais moi l'alcool je peux m'en passer pendant 3 jours.
Ah oui. Mais elles sont quand même définies comme alcooliques dans ces cas-là.
Après là je demande aux médecins de prendre la relève.
Oui. On n'en a pas.
On n'en a pas aujourd'hui. Donc bien différencier en tout cas le binge drinking, consommation excessive d'alcool sur une période très courte, les alcoolodépendants d'un autre côté, et puis des personnes qui ont une sobriété heureuse, ce qu'on appelle les flexibuveurs.
Pascal, un mot sur cette flexi...
Qui est quand même une représentante médicale.
C'est ça. Ouais. Ah ben oui, c'est vrai, Pascal est quand même infirmière. Voilà. Donc, un mot là-dessus.
Non, c'est-à-dire que moi, je ne bois pas d'alcool, je m'autorise juste à boire du champagne quand ça se présente. Donc voilà, il n'y a que ça que j'aime, en fait.
Ah oui, mais c'est une question de goût, alors.
Là, c'est une question de goût, oui. Ben, j'ai bu aussi du vin rouge, du vin blanc dans le passé, mais de façon modérée. Et puis finalement, non, sans plus. Mais le champagne, les bulles, j'avoue que ça, je ne peux pas m'en passer.
Bon, bah oui, c'est vraiment une question de
goût.
Oui.
Oh. Quand ça se présente, je
oui,
ne
non,
m'en passe
voilà.
pas quand ça se présente. Mais voilà, c'est tout.
C'est pas une addiction au champagne.
Non, pas du tout. Je n'achète pas ma bouteille de champagne
d'accord.
toutes les semaines. Non.
Mais le kéfir, Pascal, le kéfir, c'est une boisson à
bulles. C'est un peu alcoolisé.
Oui. Bah, oui, moins de 1%.
C'est fermenté.
Ouais, c'est fermenté, mais il y a des bulles.
C'est vrai, j'en prends tous les matins dans mon muesli.
Ah,
donc,
ah bah voilà.
Ça y est,
voilà.
Je suis.
Elle est alcoolodépendante, elle ne le savait pas.
Voilà, kéfir.
Mais oui, c'est vrai, parce qu'en fait, on parle, bon, c'est vrai, quand on pense alcool en France, on pense vin, bière, spiritueux divers, mais en fait, il y a plein de boissons intermédiaires, on va dire, qui sont apparues ces dernières années. Hein. Toutes ces boissons fermentées, qu'est-ce qu'il y a par exemple? Donc, kéfir.
Le kéfir, c'est vieux.
Oui, c'est vieux, non, mais en France, ça fait pas très longtemps qu'on en parle, en fait.
Ouais. Ouais. En Asie aussi, c'est très vieux, mais le kombucha, le thé fermenté.
Mmh. Donc là, c'est des degrés d'alcool très faibles.
Le cidre, mesdames, j'aimerais quand même...
Ah bah le cidre, pardon, c'est vrai. Ouais, ouais, tout à fait.
Et le tofu lacto-fermenté, il y a de l'alcool aussi?
Non, c'est pas la même fermentation.
Non, c'est une petite...
Et oui, il faut réécouter notre émission sur les fermentations, hein, avec Françoise, il y a quelques temps, parce que voilà, la fermentation de l'alcool, c'est une fermentation particulière, c'est
bien
ça
sûr.
Comment ça marche? Est-ce que Françoise, comment ça marche la fermentation?
Ça transforme les sucres en alcool, avec une production ou pas gazeuse.
Et ça se fait à l'air libre, en fait, cette fermentation-là, ou enfin, faut pas que le bocal soit fermé spécialement pour obtenir de l'alcool.
Non, il doit y avoir une partie avec air et une partie sans air.
Bon.
En fonction du process.
Et après, d'un point de vue légal, est peut-être considéré comme sans alcool une boisson qui a quand même 1%.
Inférieur à 1,2% d'alcool.
Bon. Et ce qu'on appelle, par exemple, des vins sans alcool, en fait, il y a un résidu d'alcool.
Alors, venons-en à ces boissons qui ne sont pas si nouvelles que ça, c'est ça, Sophie? Le vin sans alcool, ça existe depuis longtemps?
Non, le procédé. Alors, il y a un procédé simple qu'on utilise assez facilement en cuisine, hein, c'est de chauffer. Si vous chauffez du vin, vous allez enlever l'alcool qui est dedans. C'est pour ça qu'un vin chaud, par exemple, il n'y a plus d'alcool dedans.
Pourtant, après, ça sent l'alcool un peu.
Enfin... Alors, attendez, si on fait un vin chaud. Juste le vin avec les épices, le sucre et tout ça, il n'y a pas d'alcool. Après, vous avez des gens, ils font le vin chaud et au moment de servir, flouf, ils remettent une petite rasade d'alcool à 40 degrés. Donc là, effectivement,
les cliqueurs de derrière les fagots.
C'est légère odeur d'alcool.
Ah d'accord, en effet.
Donc ça dépend des recettes. Okay. Mais bon, si on fait un bœuf bourguignon, il n'y a plus d'alcool dans la sauce. Donc enlever l'alcool du vin, il faut le chauffer. Mais ça change le goût. Donc il y a un procédé qui avait été mis au point au début de 1911, je crois, mais je ne garantis pas. 1908, me corrige Françoise, et sûrement raison. En tout cas, donc au début du XXe siècle. Et maintenant, il y en a d'autres.
Oui,
il y a plusieurs
ça.
Procédés qui permettent de retirer de l'alcool. Entre autres, soit on refroidit, soit on chauffe doucement et on récupère les vapeurs. Enfin, je ne connais sûrement pas tous les procédés.
Mais, il y a un procédé apparemment par filtration osmose, mais qui n'est pas très apprécié des vignerons, parce que c'est pareil, ça dénature le vin. Et la distillation aussi, la distillation, ça c'est j'ai l'impression que c'est la plus appréciée. Moi, c'est ce que j'ai lu en tout cas.
La distillation, ça passe par un chauffage. Après, il y a effectivement un procédé par le froid et sous vide. Donc là, c'est plutôt celui qui est pratiqué en Allemagne. La distillation, c'est ce qu'on... Enfin, je vois moins bien comment on peut faire avec une distillation pure. C'est comme ça qu'on fabrique les alcools, donc on concentre. L'alcool. Et si on l'enlève, normalement, on a fait évaporer le reste.
Ah oui, il reste
rien.
Ou
alors, on peut récupérer ce qu'on a évaporé, le recondenser.
C'est peut-être ça.
Mais en fait, c'est pas si compliqué que ça. Le problème, c'est pas d'enlever l'alcool qui soit compliqué, c'est de récupérer un produit qui ait bon goût.
C'est ça.
Qui soit agréable à boire. Et là, c'est là que ça se...
Alors justement, qui d'entre vous a essayé les vins sans alcool et peut me dire quel goût ça a?
Non, moi je n'ai pas essayé, mais je me permets de dire que déjà l'appellation vin sans alcool, c'est un peu contradictoire.
C'est vrai.
Et puis quand on aime le vin, on l'aime alcoolisé. Je veux dire, sinon, on prend du champomis, on prend des sodas, mais quel est le but d'un vin sans alcool? Je ne comprends pas trop la transition.
Alors, le vin, l'appellation vin, si je ne me trompe pas, est légiférée. Hein. Et il faut qu'il y ait de l'alcool dedans. Sinon, ça ne peut pas s'appeler vin.
Donc, s'il y a un petit pourcentage,
inférieur
ça autorise
à 1,2 ou 1,5.
Voilà.
Bon, alors, qui a essayé le vin sans alcool?
Le vin sans alcool est légèrement moins acide qu'un vin normal. Et c'est pour ça, en fait, que d'un point de vue process, en fait, on rajoute un petit peu d'acide ascorbique, de vitamine C, pour lui redonner, en fait, un petit peu d'acidité, pour avoir une longueur en bouche au niveau des aromates, des arômes dégagés, etc. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et le fabricant, en fait, corrige avant l'encapsulage.
En fait, ça s'appelle un vin trafiqué.
Mais c'est bon ou quoi?
Alors moi, j'en ai bu 3.
Oh.
Et puis c'est pas non plus parce qu'un vin sans alcool qui est vraiment fabriqué, ça peut valoir très cher. Hein. On peut être sur des bouteilles à 40, 45, 50 euros. Hein.
Donc fait par un viticulteur qui aurait désalcoolisé son vin.
Qui a pas désalcoolisé. Là, ceux-là, c'est souvent ils ont quasiment fabriqué pour que ce soit sans alcool.
Une nouvelle boisson.
Il y a des nouveaux procédés. De toute façon, c'est un domaine où là, il y a beaucoup de R&D. Hein, beaucoup de
recherche et développement.
Alors pourquoi aussi il y a beaucoup de R&D? C'est parce qu'il y a un marché qui se dessine. Parce qu'en fin de compte, c'est la troisième fois que les vins sans alcool reviennent sont remis un peu à la mode. Il y a eu des années 70 et puis il y a eu les années 80. Et en fait, il n'y a pas eu vraiment de clientèle. Bon, là, apparemment, ça
fonctionne un peu mieux.
C'est un marché qui a l'air de trouver sa place. Il est encore anecdotique hein, par rapport au
pourquoi
il
retrouve sa place.
Les femmes enceintes ne boivent pas d'alcool, donc c'est...
Parce que les campagnes d'information sur les dangers de l'alcool ont vraiment fonctionné, peut-être.
Mais pour les femmes enceintes, c'est 0% d'alcool. Donc elles ne peuvent même pas boire du vin dit sans alcool, puisqu'il y en a, il y a quand même un résidu. Non, c'est la tolérance zéro maintenant pour les femmes enceintes.
Enfin, il faut être réaliste aussi, quoi.
Oui, c'est ça. Il y a,
non, mais il y a les messages, mais il n'y a pas que les femmes enceintes, en fait. Il y a plein de gens qui cherchent à boire.
Qui n'en boivent pas forcément, enfin pas tous en tout cas. Ça dépend des confessions religieuses aussi, mais il y a certaines confessions qui ne boivent pas d'alcool.
Oui, ça fait beaucoup de raisons de ne pas boire d'alcool.
Et les personnes âgées, elles sont très souvent citées. Par contre, je ne donnerai pas les détails. Pourquoi ? Je me dis, est-ce que c'est parce qu'avec l'âge, on supporte moins bien l'alcool ? Est-ce que c'est à cause des traitements médicamenteux ? Enfin, en tout cas, les personnes âgées sont mises en avant. Il faut voir quand même que nos sociétés vieillissent. Elles sont mises en avant comme étant aussi un gros potentiel de clientèle. Les mœurs, les habitudes de consommation évoluent aussi peut-être.
Il y a la cible du mouvement healthy, puisque le vin sans alcool est 3 fois moins calorique aussi.
Alors ça dépend des vins sans alcool.
Pour revenir aux 3 vins qui ont été goûtés,
parce que
là,
sur les trois vins que j'ai pu goûter, qui n'étaient pas des vins liquoreux, on n'était pas sur des vins liquoreux, il y en avait un qui était à 5, alors je veux pas dire de bêtises, mais c'était 3 grammes pour 100 millilitres, et l'autre était à 30 grammes pour 100 millilitres.
De sucre.
30 grammes de sucre.
Non.
De sucre.
Oui, si,
30
de sucre.
De sucre. De 30 grammes de sucre.
Donc la différence est énorme.
C'est énorme.
La différence est énorme. Alors, en plus, ce qui est compliqué, ce qui est compliqué aussi pour comparer avec le vin, c'est que les boissons alcoolisées n'ont pas l'obligation d'avoir leur composition. Contrairement à tout le reste, et donc les boissons non alcoolisées.
Donc on ne sait pas combien il y a de sucre dans un vin alcoolisé.
Ce qui est calorique dans le vin, c'est l'alcool.
Ben bien sûr.
Enfin, il y a des vins comme les vins liquoreux qui ont à la fois et le sucre et l'alcool, et même du sucre en honnête quantité. Mais un vin rouge, normalement, classiquement, un vin rouge, il n'a pas de sucre. Mais il a de l'alcool et l'alcool est calorique. Donc il y a deux choses à voir, c'est aussi le taux de glucides et le niveau calorique. Et ce n'est pas toujours facile de comparer, puisqu'effectivement, dès qu'il y a de l'alcool... surtout à un certain degré, puisque effectivement, les vins sans alcool, on a la composition, mais si vous prenez un vin normal, vous verrez sur l'étiquette, j'ai bien vérifié, il n'y a pas la composition.
Et donc, ces vins sans alcool, il y en a qui sont très sucrés, concrètement, donc ce n'est pas du tout bon pour la santé, de ce point de vue-là, en tout cas.
Non, alors il y en a qui sont, parce que 3 grammes pour... C'est beaucoup moins sucré qu'un jus de fruits, par exemple. Parce que c'est ça le problème aussi quand on ne veut pas prendre d'alcool, c'est qu'on se retrouve face au sucre.
C'est ça. Les bières, ça a été ça. Les bières sans alcool, c'est finalement des produits qui sont très sucrés, même au goût. Voilà, ça se sent, quoi.
Et donc, c'est vrai qu'on tombe de caribe en scie, parce que l'alcool, ce n'est pas super bon pour la santé, mais le sucre en quantité, ce n'est pas ça. Et on a le slogan sans alcool, la fête est plus folle. Enfin, c'était, je crois, un slogan publicitaire. Mais il faut aussi remettre cette problématique-là. C'est-à-dire qu'il y a la consommation d'alcool...
festive
individuelle qu'on peut avoir. Mais surtout, l'alcool se consomme beaucoup en collectivité. Et là, il y a un imaginaire, il y a des cultures. C'est assez étonnant, mais même encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne boivent pas d'alcool, qui disent se sentir ostracisés. Quand ils sont avec des gens, que les gens ne conçoivent pas de faire des fêtes sans alcool. Avec Françoise, on a une expérience presque une dizaine d'années maintenant. Le temps passe. Mais on avait fait un travail avec le lycée Le Liquès à Quimper et donc des secondes. Et on avait été assez affolés parce qu'on avait entendu. Et on avait fait travailler les jeunes sur la fête. On n'était pas du tout partis sur l'alcool. On était partis sur la fête. Et en fait... eux, ils assimilaient fête à alcool, et surtout à alcool où on décolle, quoi. Mmh. C'était de...
Oui, alcool en forte quantité. Mais ça, c'était il y a quelques années, parce qu'il existe à présent des mouvements qui organisent des fêtes volontairement sans alcool. Donc ça change aussi.
Tout à fait, c'est pour ça qu'on dit que la société bouge. Oui. Mais il y a encore cette contrainte sociale. Mmh. C'est-à-dire que dans nos pays, parce que c'est sûrement pas vrai partout, j'en sais rien, mais en tout cas dans nos pays, qui dit fête où on est ensemble, dit consommation d'alcool.
Et quand on dit qu'on ne boit pas, on est vu un peu comme le ou la trouble fête, c'est ça.
Enfin, c'est ce qui doit se faire. Hein. J'avoue que moi, j'ai pas ce genre de réflexe et j'ai du mal à. Mais je l'ai observé. Enfin, je veux dire, j'ai observé des gens qui critiquaient vigoureusement, voire méchamment, des personnes parce qu'elles buvaient pas. Et assez étonnamment, beaucoup de femmes. Parce que bon, il y a aussi dans l'imaginaire, l'alcool et la virilité vont aussi pas mal ensemble, même si ça a évolué. Et je pense que la consommation d'alcool et donc le substitut qu'on peut y apporter, elle passe aussi par ce changement d'imaginaire qui n'est pas si simple.
Mais ça a commencé, les marques donc s'en emparent. Alors il y a les viticulteurs, c'est-à-dire des vrais vignerons qui font du vin sans alcool. Il y a aussi, bon, les bières, ça fait longtemps qu'il y a des bières sans alcool.
Et elles explosent, les bières sans alcool. Ah oui, c'est un marché qui explose. Et là, en ce moment, c'est vraiment un marché qui marche très très bien. Et les grandes, effectivement, les grandes entreprises d'agroalimentaire investissent beaucoup.
Et alors voilà, c'est ça, il y a des nouvelles boissons qui ne sont... Est-ce qu'il y a encore des imitations, c'est ça, du faux gin ou du faux whisky ou des choses comme ça ?
Tout à fait. Pernod Ricard, Coca-Cola, toutes ces entreprises-là ont développé des faux. Parce qu'il y a un troisième volant qui est aussi la création de boissons complètement différentes qui ne sont pas des faux vins ou des faux machins.
C'est là où je voulais en venir parce que c'est intéressant ça. C'est, voilà, qu'est-ce que c'est comme style de boisson par exemple ? Ces boissons nouvelles qui sont des boissons qu'on pourrait dire festives, en tout cas à fort caractère, mais qui ne sont pas alcoolisées. Qu'est-ce que ça peut être par exemple ?
Alors là, on parle de R&D, c'est du R&D.
C'est du R&D. Il y a beaucoup de mixtes en fait d'entreprises qui se positionnent en fait sur des préparations aromatiques en naturel identique, mais intéressantes justement pour exciter les papilles gustatives, donner de la longueur en bouche, aller faire que nos papilles pétillent en fait un petit peu, il y a vraiment de la R&D autour de ça. Alors à titre personnel, moi je fais des cocktails avec ma centrifugeuse sans alcool, du coup, et pour avoir ce côté peps, ce côté qui réveille, je mets du gingembre et du piment.
Ah oui, carrément.
Et les deux associés, alors bien sûr, il faut doser. Je fais pomme, banane, mûre, citron, parce que le citron va aussi apporter l'acidité, réveiller. Ouais. Et en plus, gingembre et piment. Et j'avoue que quel que soit après les fruits que j'utilise, je garde une base pomme, je mets du fruit rouge, je peux même mettre du légume, mais en plus, mettre du gingembre et du piment, c'est top.
Il nous faudrait des recettes.
Oui, mais là, on est encore sur du sucré. Parce qu'on part sur des jus de fruits.
Alors jus de légumes.
Voilà.
Jus de légumes avec une base pomme.
Françoise, tu sers du gazpacho en apéritif, c'est excellent. Mais, et là, on revient sur l'imaginaire. Moi, je l'ai déjà proposé pour les gens, pour beaucoup de gens. Le gazpacho, bon, certes, c'est une soupe, donc déjà, il faut sortir un peu de ça. Mais en plus, c'est un côté bonne santé. C'est associé à une hygiène. Et pour beaucoup de personnes, en fait, quand vous proposez ça, vous leur faites reproche.
C'est pas sexy.
C'est comme ça aussi que je perçois le fait que des gens soient si agressifs avec des gens qui boivent pas. C'est parce qu'en fait, ils les perçoivent comme des gens qui leur reprochent en fait à eux de boire.
C'est ça.
Ah, d'accord.
Et donc, peut-être plus ou moins inconsciemment, mais je veux dire, c'est un peu ça. Le discours, et toi, tu nous dis, faut pas, moi je bois pas, mais toi tu bois, quoi.
En gros, ouais.
Donc voilà, implicite, par exemple, implicite. Pas de chose, c'est une excellente idée. Hein.
Oui,
c'est très bien. Les développements sont beaucoup quand même autour des végétaux, des herbes. Si on arrive à essayer d'avoir une boisson comme dit Françoise, qui pétille, qui donne envie, qui a du peps, etc., qui soit pas sucré et pas alcoolisé, bah, faut revenir un peu aux sources. Et il y a beaucoup d'expériences qui sont faites autour de plantes, en fait.
Oui, parce que quand on pense aux tisanes chaudes, là, pour le coup, oui, avec des plantes, ça peut être très fort, une tisane.
Tout à fait.
On peut la refroidir si on veut, après
bien
tout,
sûr.
Et la boire fraîche.
Et c'est vrai que gingembre et piment, déjà, oui, c'est une base pour donner du corps. Après, quand on n'aime pas, c'est...
Oui.
Voilà. Mais quand on aime, c'est vrai que moi je me souviens d'avoir bu chez une amie et c'était en fait une décoction de gingembre citron avec elle mettait ça avec de l'eau pétillante et elle le sucrait. Mais moi personnellement,
oui, on peut le sucrer modérément aussi.
Voilà, hein, mais c'est... en l'occurrence là, ce jour-là, c'était sucré. Mais et c'est vrai que ça avait quasiment un goût de boisson alcoolisée, tellement c'était fort. J'ai trouvé ça... Enfin, ça fait partie des choses que je continue à me faire chez moi. Et j'aime beaucoup. Après, on en trouve dans le commerce, mais c'est très sucré. Mais c'est une question de goût.
Mais c'est ça, tout à fait.
C'est, que, ouais, l'intérêt de les faire soi-même, c'est qu'on...
Pascal, un petit exemple pour terminer de boisson? Non,
ben
aucun.
Non, pas. Mais ça me donne des idées d'entendre ça, justement. Gingembre, citron, ta proposition de cocktail est intéressante.
Les Allemands aussi, alors il y a un petit peu de sucre, mais c'est le mélange jus de pomme et eau gazeuse, ils appellent ça le col ou le chol, je ne parle pas allemand. Et ils en boivent pas mal, apparemment.
Mais il y a du sucre, c'est
très
du jus
sucré,
de pomme.
Mais après, ça dépend de la quantité de jus de pomme qu'ils mettent.
Bon. Et la quantité d'eau gazeuse aussi.
Aussi, il faut voir. Bon, eh ben, on va vous remercier, on va s'arrêter là, mesdames. On
Merci.
Va remercier l'association 4 quarts pour ses inspirations pour un Dry January un petit peu plus peps. Merci.